France Info.
France Info, les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info jusqu'à 21h en direct. La loi travail, les ordonnances travail, une semaine de concertation intense que l'on nous annonçait à haut risque. Et pourtant, c'est calme plat du côté des syndicats. Nous allons en débattre dans quelques minutes dans les informés. Aujourd'hui, autour de cette table, je commence par Olivier Auguste, rédacteur en chef adjoint à l'Opinion. Bonjour.
Bonsoir.
Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International.
Bonsoir.
Laurence Desquet, grand reporter dans les questions sociales pour Marianne. Bonsoir à vous aussi. Et Romain Dessalles pour la newsletter Time to Sign Off. Bienvenue à tous les quatre. Vous êtes les informés de France Info ce soir. Et d'abord, cette crise diplomatique entre Emmanuel Macron et la Pologne. Emmanuel Macron veut donc, vous le savez, nous en avons parlé dans les informés cette semaine, il veut revoir la directive des travailleurs détachés qui permet à une entreprise de faire travailler dans un autre pays européen un salarié tout en payant les charges du pays d'origine. Il semble qu'il y ait derrière cela du dumping social. La Pologne refuse catégoriquement de revoir cette directive. Alors, Emmanuel Macron, en visite dans les pays de l'Est, se fâche.
L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Et donc à cet égard, je pense que la déclaration de la première ministre polonaise hier ajoute une nouvelle erreur à la stratégie polonaise et manifeste combien ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe. Le peuple polonais mérite mieux que cela. La première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux.
Quelle mouche l'a piqué, Olivier Auguste ?
Je crois qu'il embraye sur... il part du prétexte, finalement, des travailleurs détachés ou du problème qui en est un véritablement, et en particulier pour lui, puisque la Pologne bloque sur la révision de cette directive. Mais il profite d'un contexte un peu plus large, c'est-à-dire que ça fait quand même maintenant des mois et des mois que la Pologne agace pas seulement la France, mais beaucoup de ses partenaires européens.
Mmh. Notamment l'Allemagne.
Notamment l'Allemagne, mais aussi les institutions européennes, la Commission de Bruxelles, parce qu'elle joue, alors le terme est peut-être un peu fort, mais une sorte de double jeu vis-à-vis de l'Europe. D'un côté, elle profite amplement de toutes les règles de libre circulation des personnes, libre circulation des biens, des services, qui ont considérablement contribué à son redressement économique et à la faire progresser depuis qu'elle a rejoint l'Union européenne et après la chute du mur
elle
de Berlin.
Elle bénéficie aussi de tous les mécanismes financiers,
elle
subventions et autres.
Elle bénéficie aussi de tas de transferts, d'aides, évidemment. Et de l'autre, elle voudrait pouvoir se dispenser de l'application de tas de règles qui sont au cœur du fonctionnement européen
et de ses
valeurs et notamment de certaines règles démocratiques, en particulier en ce qui concerne l'indépendance de la justice qui est vraiment menacée par des lois ou des projets de loi en cours en Pologne. Et donc ça fait un moment que la Pologne n'agace pas seulement la France, mais vraiment beaucoup de ses partenaires européens.
Romain Dessalles ?
Alors, on peut penser ce qu'on veut du gouvernement polonais et de ses valeurs et de... Effectivement, le chemin qu'il prend pour s'intégrer à l'Europe, il faut quand même revenir sur les mots qu'emploie Emmanuel Macron. Mmh. Il dit dans toute la première partie de la déclaration qu'on vient d'écouter, la Pologne prend une nouvelle fois une mauvaise décision
et se met en marge
de l'Union européenne. Et il termine par le peuple polonais mérite mieux que le gouvernement actuel. Ce qui est quand même un truc complètement dingue.
Il dit pas exactement mérite mieux que le gouvernement actuel, mais il mérite mieux que ces décisions-là.
Voilà. Mérite mieux. Il met directement en cause un exécutif démocratiquement.
C'est grave, diplomatiquement.
Personnellement, du jamais vu. On n'a jamais vu un président mettre en cause un allié. C'est même pas un allié
partenaire,
lambda.
Quoi.
C'est un partenaire, un co-membre de l'UE. On a là dépassé une limite qui me semble quand même nécessaire de rappeler.
Donc pour vous, il est allé trop loin ?
Très nettement.
Virginie Lepetit, il est allé trop loin, Emmanuel Macron ?
Il poursuit dans sa lancée. Il sait que de toute façon, la Pologne n'a aucun intérêt à accepter, en tout cas, les changements dans la directive travailleurs détachés. C'est le pays qui fournit le plus gros contingent. C'est plus de 400 000 emplois, enfin 400 000 personnes qui sont concernées. Si la directive passait, effectivement, il y a des journaux en Pologne, notamment Gazeta Wyborska, qui disent c'est un emploi polonais sur 40 qui serait concerné et menacé.
Un emploi sur 40.
Oui. Donc, alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a le gouvernement
qui du tout intérêt à réformer cette règle.
Et comme par ailleurs, effectivement, la Pologne, le gouvernement en tout cas polonais, parce que la Pologne, c'est pas que le gouvernement polonais, adopte une attitude ultra conservatrice. C'est pas le seul, hein, en Europe, la Hongrie est quand même totalement dans cette. Voilà, c'est assez logique qu'elle soit réticente, et c'est un peu facile de tirer à boulet rouge quand on est allé voir d'autres pays et négocier avec d'autres pays qui fournissent finalement 40 000 ou 50 000 travailleurs détachés.
Lance Desquet, il est allé trop loin.
Oui. Bah, je pense, dans la critique des fragilités institutionnelles de la Pologne, c'est évidemment légitime de critiquer. Sur le sujet des travailleurs détachés, faut pas être naïf non plus. On est aussi dans un contexte politique et intérieur. D'ailleurs, il est intervenu depuis l'étranger sur des questions intérieures qui le pousse à faire monter ce sujet.
C'est-à-dire que vous voulez dire qu'en faisant cette déclaration, il s'adresse aussi aux Français? C'est ça que vous voulez dire?
Il opte un terrain politique qui est disputé.
Avec le fameux plombier polonais.
La question réelle de ça, c'est, il monte très très fort, comme l'a dit mon voisin, c'est est-ce que ça va être efficace au moment même où la commission Barroso et la commissaire européenne Marianne Thyssen poussent une réforme de cette directive qui vise à instaurer une égalité de rémunération, incluant à la fois les primes d'ancienneté et les différents avantages. Est-ce que d'ailleurs il y a une réaction qu'il faut relever de la députée LR qui est Madame Morin-Chartier qui pousse ça au Parlement européen, qui se demande si après ça, après la campagne de Monsieur Macron, du président Macron, il sera encore possible de trouver une majorité pour faire aboutir cette réforme.
Dans quelques minutes,
je voudrais dire aussi juste une chose, c'est que c'est bien de critiquer le non-respect, le dumping social. Encore faudrait-il s'en donner les moyens en France. Et je rappelle que les inspecteurs du travail qui doivent faire ce contrôle des travailleurs détachés se plaignent d'une réduction des postes, qu'il y a eu des soucis informatiques sur les feuilles de déclaration des travailleurs détachés qui rendent le mécanisme pas très simple.
Voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt, nous dites-vous. Laurence Desquet pour Marianne. Dans quelques instants, on va découvrir la réaction de la Pologne. Et vous allez voir, c'est plutôt salé là aussi. 20h10, vous êtes sur France Info, toute l'info Emmanuel Langlois.
Ce coup de tonnerre à la brigade des stupes, l'ex-patron de la lutte anti-drogue, mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, François Thierry, soupçonné d'avoir favorisé l'entrée en France de 7 tonnes de cannabis saisies en 2015 pour rendre service à l'un de ses indiques, lui-même trafiquant de drogue. Les créations d'entreprises, elles ont accéléré en juillet en France, progressant de 4,9% après une hausse de 3% en juin, d'après l'INSEE. Création d'entreprises soutenues par les immatriculations d'auto-entrepreneurs. Une nouvelle demande de libération de Lou Bureau, rejetée par le juge qui l'avait mise en examen. Le journaliste français détenu en Turquie depuis fin juillet pour terrorisme. Son comité de soutien en appel à Emmanuel Macron. Deux entraîneurs espagnols et surtout deux parcours sans faute. La réception de Saint-Etienne par le PSG pour la 4e journée de Ligue 1 ce soir. Premier test important pour le Paris Saint-Germain de Neymar. Reconnaît l'entraîneur du club parisien Unai Emery, début du match à 20h45 au Parc des Princes. Et puis en foot encore, ce tirage au sort corsé pour les trois clubs français engagés en Europa League. Lyon sera opposé notamment à Everton et à l'Atalanta Bergame. Marseille à Salzbourg et Nice à la Lazio de Rome.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info, nous poursuivons avec Romain Dessalles pour la newsletter Time to Sign Off, Laurence Desquet pour Marianne, Virginie Lepetit pour Courrier International et Olivier Auguste pour L'Opinion. Et cette crise diplomatique entre Emmanuel Macron, déclenchée par Emmanuel Macron, et la Pologne. Réaction de la Pologne. Donc je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a dit que la Pologne se mettait en marge de l'Union européenne sur la question des travailleurs détachés, mais pas seulement. Voici ce que dit donc la Pologne. Peut-être ces déclarations arrogantes sont-elles dues à son manque d'expérience et de pratique politique, ce que j'observe avec compréhension, mais j'attends qu'il rattrape rapidement ses lacunes et qu'il soit à l'avenir plus réservé. C'est plutôt salé, hein, également Virginie Lepetit.
Oui, c'est salé, c'est de bonne guerre. Hein.
Ouais, c'est une bonne guerre,
temps,
ouais, bien sûr.
Voilà, c'est de bonne guerre. Et puis, c'est pas comme si les relations étaient au beau fixe entre le gouvernement, en tout cas le parti Droit et Justice, le PiS, le parti au pouvoir en Pologne, et le gouvernement français. Il y a eu au mois d'octobre, je crois, 2016, une annulation de commandes d'hélicoptères militaires qui avait déjà pas mal...
François Hollande avait annulé un déplacement, je crois.
François Hollande avait annulé un déplacement à la suite, de cette annulation.
Et puis je crois déjà que au début des années 2000, la Pologne avait renoncé à des achats d'avions européens pour acheter des F-16 américains.
Il y a ça, et il y a aussi les relations entre la Pologne et l'Union européenne qui sont pas non plus merveilleuses, puisque l'actuel président du Conseil européen, Donald Tusk, qui est polonais, a été reconduit à ce poste contre l'avis du gouvernement au pouvoir,
De cette directive, est-ce que la réforme voulue par Emmanuel Macron et par certains alliés, notamment pays de l'Est, est-ce qu'elle peut aboutir sans la Pologne, mécaniquement? Oui, Romain Desalles, Olivier Auguste.
Alors, je rentrerai pas dans un débat de spécialistes des institutions européennes.
C'est pas un vote à la majorité.
Mais ça paraît extrêmement difficile. Ça paraît extrêmement difficile. D'autant plus que ce qu'on a présenté comme au moins un demi-succès d'Emmanuel Macron en Roumanie, et au mieux un demi-succès d'Emmanuel Macron en Roumanie. La messe est très loin d'être dite sur le soutien de gouvernements qui sont pourtant des gouvernements plutôt sociaux-libéraux comme les gouvernements roumains. Et je vous parle même pas des gouvernements de droite des autres pays comme la Pologne ou la Hongrie.
Je voudrais vous faire écouter ce que dit Emmanuel Macron, parce que finalement, on parle beaucoup des travailleurs détachés, c'était l'objet de son déplacement, mais finalement, il a peut-être des ambitions qui vont bien au-delà. Écoutez.
De tels comportements ont été rendus possibles par notre inaction depuis 12 ans. Ce détachement à l'égard de l'Europe, c'est un détachement à l'égard d'une Europe qui n'ose plus se désirer elle-même, n'ose plus avoir de l'ambition. Donc, je peux vous le dire, des positions comme celle qu'a prise hier la Pologne me rendent encore plus fort et plus convaincu qu'une initiative de relance européenne est indispensable.
Donc ce qu'on comprend, c'est que l'Europe est en panne et qu'Emmanuel Macron veut être le nouveau pilote.
Oui, il a une vraie conviction européenne, on peut pas dire le contraire. Oui. Souvenez-vous de la campagne qui est pas si ancienne que ça, il a été le seul dans les meetings où on voyait s'agiter des drapeaux européens. Il a vraiment porté cette flamme européenne pendant la campagne, il était assez seul sur ce créneau-là. Non, le problème, c'est qu'il est souvent un peu en contradiction entre son discours et puis ses actes depuis qu'il est président. On vient de le voir avec cette question avec la Pologne sur le travail détaché. Ouais. Je pique un jeu de mots à mon confrère Mathieu Verrier de La Voix du Nord qui nous dit qu'il a un peu joué les plombiers pyromanes sur ce coup-là, en référence évidemment au fameux plombier polonais. Oui. Mais c'est pas la première fois qu'il est comme ça un petit peu en porte-à-faux avec ce qu'il avance lui-même sur l'Europe.
Mais qu'est-ce qu'il veut faire?
Demander par exemple aux Italiens comment ils l'apprécient depuis le début de son mandat. Les Italiens ont gardé en travers de la gorge l'affaire STX, des chantiers de Saint-Nazaire. On a dit non, il n'est pas question que ces chantiers partent à un industriel italien alors qu'ils appartiennent depuis des années à un Sud-Coréen sans que ça pose aucun problème. Et puis sur la question des migrants aussi, Rome est pas très content. On peut pas dire que on fasse preuve d'une solidarité extraordinaire avec l'Italie, qui est un des principaux pays d'entrée des migrants.
Donc il y a le discours où il veut relancer la construction européenne, mais les actes sont
un décalage entre les deux.
Le discours est pas très précis dans les modalités, mais il est assez précis dans les ambitions. Ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est relancer l'Union européenne, et en particulier en partant du cœur qu'est la zone euro. Il veut redonner de la démocratie à la zone euro et redonner du pouvoir à la zone euro. Parlement de la zone euro, budget européen, budget de zone euro et ministre des Finances et ministre des Finances européens. Ça veut dire que il va falloir amadouer, et amadouer est un mot d'une faiblesse absolue, amadouer l'Allemagne qui ne veut pas qui ne veut absolument pas de syndication des dettes, de partage des risques, enfin tout ce qu'on sait.
Mais du coup, le fait d'aller faire cette tournée en Europe de l'Est,
c'est fondamental.
C'est stratégique.
C'est fondamental pour Emmanuel Macron.
Donc c'est pas que pour les travailleurs détachés.
Non, c'est fondamental parce que c'est la première brique. Si on veut faire une zone euro un peu intégrée, fédéraliste, il va falloir amadouer les Allemands. On amadouera les Allemands en faisant des réformes qui feront de nous un pays exemplaire. Pour faire ces réformes qui feront de nous un pays exemplaire, il faut faire passer une pilule assez amère aux Français, loi sur le travail, et ce qui va venir après en matière d'austérité budgétaire. Le premier step de ça, c'est faire montrer que la France peut permettre de trouver une Europe qui protège en faisant réévaluer et renégocier cette directive.
Pour mettre en confiance.
Exactement.
Laurence Desquet.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est tellement important que finalement, c'est cette position européenne qui explique le pourquoi des ordonnances, la rapidité avec laquelle elles ont été imposées, puisqu'il s'agit finalement de montrer que bien que la France soit pas réformable, lui peut la réformer avant les élections en Allemagne d'Angela Merkel.
Donc, tout est lié.
Et de pouvoir, c'était lié depuis le début. Et ça, c'était une chose très intéressante de son analyse politique quand il était à Bercy et qui a structuré toute sa campagne. Cette idée que il faut restructurer la zone euro parce que
donc
la
attendez,
zone euro
je
est
voudrais être sûr d'avoir bien compris ce que vous êtes en train de me dire tous les trois. Il restructure, il réforme à marche forcée la France, notamment la loi travail, pour donner des gages à l'Allemagne, pour ensuite relancer la construction européenne, c'est ça ?
C'est
bien ce que vous êtes en train de nous dire.
Et
donc cette tournée européenne, elle va bien au-delà de la simple question des travailleurs détachés.
Seulement la loi travail, mais tout ce qu'on voit en ce moment, tous les errements, les tâtonnements autour des questions fiscales, ça vient très largement de l'obsession qu'il a de passer à tout prix en dessous des 3% de déficit, parce qu'effectivement, il veut donner des gages à Angela Merkel et à la future coalition allemande, puisqu'on va avoir des élections très bientôt en Allemagne. Faut bien voir que quand on dit budget de la zone euro, les Allemands, ils entendent quoi ? Ils entendent, on va payer les dettes des Français, ils vont continuer à dépenser sans compter, et c'est nous qu'allons payer. Ça, on va pas leur imposer tout de suite, donc effectivement, il veut leur donner des signes.
Laurence Desquet ?
Oui, non, je voulais ajouter que on l'a bien vu quand il était à Bercy finalement. On avait il est très versé aussi dans la politique américaine, donc il avait très bien étudié ce qu'avaient fait les États-Unis, la politique de relance, la politique monétaire qui a permis de relever plus rapidement le pays. Et comment dire, pendant qu'en Europe on a tergiversé, on a attendu des mois et des mois qui ont créé de la crise, qui ont créé du chômage, qui ont enfoncé certains pays. Donc ça, c'est vraiment une chose positive de vouloir relancer la zone euro et d'entraîner les Allemands. Je sais personnellement, parce que pour en avoir discuté avec des syndicalistes allemands, qu'il avait essayé pendant cette période.
Avant les infos.
Simplement, ça ne passait pas pour l'instant avec les Allemands. On espère que ça va aller.
Et la droite ? La droite pendant ce temps ? Eh bien, la droite, elle est dispersée avec non pas une université d'été, mais plusieurs. Et c'est dans un instant la suite des informés de France Info. 20h20, toute l'info, Emmanuel Langlois.
Après le fipronil, des traces d'un deuxième insecticide interdit ont été retrouvées en France. Il s'agit de l'amitraze. D'après le ministère de l'Agriculture, il aurait été utilisé dans quelques élevages de poules pondeuses. Ce sera cette année la plus petite récolte dans l'Hexagone depuis l'après-guerre, en baisse de 18% par rapport à l'an dernier. La faute au gel puis à la sécheresse qui ont touché successivement les vignobles français. Faible récolte, mais un millésime d'excellente qualité selon les viticulteurs. Nouvelle coulée de boue, nouveaux dégâts dans le village suisse alpin de Bondo, près de l'Italie. Les chances de survie sont très faibles pour les 8 randonneurs disparus dans le premier glissement de terrain d'hier. Le Texas aux abris avant le passage de l'ouragan Harvey, menaçant les nombreuses raffineries de pétrole de la région notamment. Les autorités américaines exhortent les habitants à évacuer d'urgence la zone menacée. L'ouragan devrait ensuite se déplacer vers la Louisiane. Grande manifestation contre le terrorisme demain samedi à Barcelone, 9 jours après les attentats sanglants de Catalogne. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, appelle tous les Espagnols à descendre dans la rue. Voilà qui en fait le joueur français le plus cher de l'histoire, Ousmane Dembélé, transféré pour 5 ans au FC Barcelone et pour 105 millions d'euros. L'attaquant, âgé de 20 ans, arrive du club allemand du Borussia Dortmund.
France Info. Les informer, Cahour.
La suite des informés de France Info avec aujourd'hui Laurence Desquet pour Marianne, Romain Desalles pour Time to Sign Off, une newsletter, Virginie Le Petit pour Courrier International et Olivier Auguste pour L'Opinion. La droite va-t-elle réussir à éviter la guerre des chapelles? Il y aura ce scrutin pour désigner le nouveau président des Républicains. Ça sera le 10 et le 17 décembre. Alors vous allez me dire, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici là, c'est vrai. Mais là, à court terme, il n'y a pas d'université d'été pour rassembler tout le monde cette année. C'est chacun dans son coin, chacun pour soi. Il y a les jupéistes en ce moment même à Bordeaux, les fillonistes à La Baule la semaine prochaine, Wauquiez le 3 septembre, Valérie Pécresse qui lance son mouvement le 10 septembre. Est-ce que ça pouvait en être autrement qu'une droite éparpillée? Virginie Le Petit.
Alors après ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle et les élections, non, ça semblait quand même improbable que tout le monde se rassemble sur un projet commun et d'une seule voix. Et c'est peut-être sain finalement que que finalement à un moment les désaccords soient mis sur la table et qu'il puisse y avoir une discussion, quitte à refonder quelque chose de nouveau. Mais enfin, l'espèce de même pas consensus de toute petite ligne commune qui pouvait rassembler tout le monde, elle peut pas tenir là. Il faut des discussions.
Romain Desalles.
Ouais, elle semble exister d'autant moins que, enfin, même chez LR, on ne voit pas où il y a un consensus. L'Obs fait un papier intéressant sur le fait que le 26 juillet, LR a envoyé 250 000 questionnaires à ses membres sur, en gros, quelles sont nos valeurs? Où est-ce qu'on est?
Enfin, où est-ce qu'on va?
Mais des questions. Il faut quand même que je vous lise parce que il y a quand même des questions absolument fondamentales. Je cite, hein. Quelles doivent être les priorités des Républicains? Deux choix sont possibles, parmi lesquels les questions économiques, éducatives, environnementales, européennes, internationales, régaliennes, sociales ou sociétales. Première question. Deuxième question. Pour vous, la droite doit-elle être essentiellement, là aussi deux choix possibles, libérale, patriote, conservatrice, réformatrice, sociale, humaniste, européenne ou gaulliste?
Ah oui, enfin, alors, selon, tout à plat, là.
Non, mais selon que vous cochez l'une ou l'autre de ces trucs, vous n'avez pas
là,
du tout la même droite.
On c'est ne une crise de personnalité,
absolument pas
ça.
La même droite.
Oui, mais il y a effectivement plusieurs lignes à droite, mais maintenant, en ce qui concerne la ligne du parti Les Républicains à partir de décembre, on sait laquelle elle sera. Ce sera celle de Laurent Wauquiez.
Ah, vous dites, vous êtes sûr, ça se connaît la tête.
Il est le seul à pouvoir gagner, alors sauf candidat sorti du chapeau.
Pourquoi ça serait lui?
Bah, écoutez, si vous pensez que Daniel Fasquelle, Florence Portelli ou Laurence Saillet, je veux pas être désobligeant avec eux, mais ont la moindre chance de l'emporter, je veux bien parier.
Je ne voudrais pas être médisant, je vous laisse cette responsabilité.
Ils sont pas là pour ça. Ça leur fera un petit peu de pub, ça permet à Laurent Wauquiez de pas être élu avec 100% des voix, ça serait un petit peu embarrassant.
Laurent Wauquiez, il a été ministre, mais est-ce qu'il a un socle électoral suffisamment solide et large?
Bah, il a le socle président. Des militants. On sait bien que dans un camp, les sympathisants et les militants, c'est pas exactement le même noyau.
C'est quoi, c'est le socle des sarkozistes, notamment?
Oui, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est une ligne relativement, je sais pas comment dire, de droite franche, en tout cas assez conservatrice sur les questions de société et qui va beaucoup se pencher sur les frontières pour l'économie, pour la sécurité, pour l'immigration. Il va beaucoup parler de ça.
Non, mais en dehors du socle, parce que vous avez parfaitement raison. Pour l'instant, les gens, enfin, sans aucun manque de respect à ces gens-là, mais les gens qui s'opposent, qui sont identifiés pour s'opposer à
Wauquiez, okay.
sont des seconds couteaux. Enfin,
il peut pas y avoir de surprise.
Bah, bien sûr que si. Vous l'avez dit. Il y a de l'eau qui va passer sous les ponts et on peut absolument pas exclure des surprises.
Laurence Desquet.
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les Républicains, eux, ils ont changé de nom, mais ils sont pas vraiment en meilleur état que le Parti Socialiste. Je sais pas si ça peut
on va en parler du Parti Socialiste.
Susciter une réflexion. Évidemment, si Wauquiez Monsieur Wauquiez est très bien placé pour l'emporter, compte tenu de la composition des
mais
militants
donc, du coup,
de
ça veut dire que c'est
les
une ligne
Républicains.
Très droitière.
Simplement, cette ligne très droitière, elle va jamais rassembler énormément. Donc, on se retrouve avec finalement des gens à droite qui n'ont plus tellement de choses à se dire.
Mais quel choix ils ont ?
Ça va être ça la question.
C'est la question que je vous pose.
Mais quel choix ils ont ? Quel choix ils ont autrement que de prendre une ligne droitière ? La ligne centriste. Européenne, libérale, etc. Elle est prise par Macron et Édouard Philippe. En revanche, il y a une opportunité historique, si on peut dire ça entre gigantesques guillemets, c'est que le FN est absolument absent du théâtre,
sa rentrée parlementaire.
Exactement, totalement absent dans l'opposition. Donc, il y a un petit espace à droite.
Mais cet espace, il est effectivement réduit parce qu'il faut trouver le chemin quelque part entre une ligne européenne libérale en économie. Bah, si je pense comme ça, bah, finalement, pourquoi je vais pas plutôt voir du côté de En Marche, et puis une ligne qui est plus souverainiste, plus en faveur des frontières, de la souveraineté. Mais à ce moment-là, on n'est pas très loin du Front National.
Je disais tout à l'heure qu'une des menaces pour Laurent Wauquiez, donc s'il est élu président des Républicains, le risque pour lui, c'est de diriger un parti, c'est ce que dit un de ses opposants, un parti rabougri, replié sur ses seuls militants, sans pouvoir attirer le centre droit. Est-ce que c'est vraiment un risque ou est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez a suffisamment de capacité à élargir son spectre pour pouvoir rassembler au-delà?
Moi, je défère à l'opinion qui connaît sans doute bien les gens de chez LR, mais le niveau d'antagonisme pour Laurent Wauquiez chez les Républicains
est immense.
Ouais. Il est absolument détesté et il est...
Et malgré tout, vous nous dites qu'il va être élu.
Mais il est détesté par une bonne partie des cadres. Je suis pas sûr que ce soit si vrai que ça.
Des militants, ceux qui vont mettre le bulletin dans l'urne.
Mais pour répondre à votre question, une des dimensions dépendra de la façon dont arriveront à s'organiser ou pas tous les autres. C'est-à-dire ceux qui sont dénommés les constructifs, mais on n'a pas bien compris comment ils se positionnaient. Les héritiers de Juppé, est-ce qu'ils vont créer des partis, des mouvements? On a eu pendant des années une droite qui fonctionnait avec d'un côté le RPR, de l'autre côté l'UDF, des lignes complémentaires qui se retrouvaient au second tour des élections. Et qui a eu, pas tout le temps, mais à certaines époques, qui a rencontré le succès de cette façon.
Il est 20h29 sur France Info. La suite des informés, dans un instant, nous allons parler notamment de cette loi travail. Les syndicats restent un peu sur leur faim, mais restent sur leur faim dans le calme. Réussite ou pas de la méthode Pénicaud, la ministre du Travail, ex-DRH. A tout de suite pour les informés de France Info. Tout de suite la météo et les infos.
France Info Météo avec Calipage. Toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Rendez-vous dans l'un de nos magasins ou sur calipage.fr.
Quel temps demain, Elodie Calac?
Souvent ensoleillé demain, il faudra quand même se débarrasser de la grisaille le matin de la Bretagne à la frontière belge, mais aussi du Languedoc-Roussillon jusqu'au sud de l'Aquitaine. Dans l'après-midi, on ne sera pas à l'abri d'un orage au nord de la Seine, sur le relief. Le Pays Basque, lui, sera concerné seulement en soirée. On attend de fortes chaleurs, surtout dans le centre-est. Rhône, Loire, Puy-de-Dôme sont en vigilance orange canicule. Il fera souvent 14 à 22 degrés cette nuit. L'après-midi, on atteindra 23 à 25 degrés près de la Manche, 28 à Paris, La Rochelle, Perpignan, 32 du côté de Strasbourg, Bourges ou Bastia, 35 à Agen, Clermont-Ferrand, Lyon. Dimanche, ce sera encore lourd et on retrouvera les orages de l'océan jusqu'au nord-est.
Merci Elodie, vous êtes sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Et ce jugement à Metz, 12 mois de prison avec sursis pour une mère de famille de 49 ans. Elle avait laissé seule au domicile familial pendant un mois deux de ses enfants âgés de 9 et 12 ans. Alors qu'elle était partie en vacances à l'étranger, ses trois enfants ont été placés. La mère de famille encourait jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme. Ça circule et il y aura de la chaleur sur le Rhône et aujourd'hui et hier. Les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme à leur tour ont été placés en vigilance orange canicule. Circulation avec les retours des vacances du mois d'août qui sera chargée donc notamment dans le sud-est de la France. Les créations d'entreprises, elles ont accéléré au mois de juillet en France, progressant de 4,9% après une hausse de 3% en juin, d'après les chiffres de l'INSEE. Création d'entreprises soutenue par les immatriculations d'auto-entrepreneurs. C'est la plus lourde sentence infligée à un capitaine d'industrie sud-coréen ces dernières années, l'héritier de l'empire Samsung, condamné à 5 ans de prison pour corruption dans le retentissant scandale qui avait emporté la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Emmanuel Macron achève sa tournée en Europe de l'Est. Il met la pression sur la Pologne qui refuse le principe d'une réforme de la directive sur le travail détaché. Varsovie se met en marge de l'Union européenne, attaque le chef de l'État français depuis la Bulgarie. La première ministre polonaise, elle, l'a taxé d'arrogance. Le Texas redoute un désastre très important avec le passage dans les heures qui viennent de l'ouragan Harvey, classé en catégorie 3 sur 5. Il menace notamment les nombreuses raffineries de pétrole de la région. Les autorités américaines exhortent les habitants à évacuer d'urgence la zone menacée par l'ouragan. Deux entraîneurs espagnols et surtout deux parcours sans faute. La réception de Saint-Étienne pour la quatrième journée de Ligue 1. Premier test important pour le Paris Saint-Germain de Neymar ce soir. Match à 20h45 au Parc des Princes où vous vous trouvez, Jacques Vendroux.
Et oui, un match assez exceptionnel quand vous regardez le classement. Le PSG est premier avec l'AS Saint-Étienne et Monaco avec un total de 9 points. Et c'est la première fois depuis 1981 que ces deux clubs se retrouvent en position de leader. Alors il n'y a pas de surprise, Neymar joue. L'attaque du Paris Saint-Germain est très claire. Di Maria, Cavani et Neymar. Et puis Pastore, c'est son grand retour dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Il remplace Verratti qui est suspendu. Et côté des Verts, c'est la Dream Team, c'est l'équipe type. Et en tous les cas, ici, on attend tout simplement encore des exploits de Neymar. En attendant, c'est ce que le public également a fait savoir avant le match, l'arrivée de Mbappé. En tous les cas, super match qui s'annonce entre le PSG et les Verts de Saint-Étienne.
Jacques Vendroux en direct du Parc des Princes. Il est 20h33 sur France Info, les informés, la suite est fin.
Les informés, Guillaume Caour.
Les informés jusqu'à 21h sur France Info avec ce soir Laurence Desquet pour Marianne, Virginie Le Petit pour Courrier International, Olivier Auguste L'Opinion et Romain Dessalles, Time to Sign Off, c'est une newsletter. Hein,
absolument,
c'est
à laquelle vous êtes abonné.
Bien évidemment, dans quelques minutes, bien sûr. Bien sûr, la loi travail, les syndicats restent sur leur faim, mais dans le calme. Et ça, c'est étonnant. Enfin, moi, personnellement, ça m'a étonné, peut-être pas vous, vous allez me le dire. Est-ce un signe de réussite de la méthode de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est la fin de la dernière semaine de concertation sur les ordonnances qui vont réformer le Code du travail. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'éclat de voix. Jean-Claude Mailly, ce matin, était l'invité de Force ouvrière sur France Info.
Il y a encore toute une série d'arbitrages pendant la semaine à venir. Je pense que, j'en suis sûr même, que rien n'était écrit d'avance. J'ai pris une image en disant, pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron, il a donné des thèmes, y compris sur ces questions-là. Il a tressé des têtes de gondole, mais il n'a pas rempli les rayons. Hein, donc là, on est en train de regarder ce qu'on met dans les rayons, etc. Mais ce n'était pas écrit, et tout n'est pas écrit encore.
Laurence Desquet, on connaît quand même un peu ce qu'il y a dans les rayons maintenant.
C'est éclairci sur certains points, notamment l'articulation et le respect de la hiérarchie des normes. C'est un sujet un petit peu technique, mais qui veut dire simplement que il y a un accord d'entreprise qui doit s'inscrire dans un accord de branche, qui doit s'inscrire dans la loi pour un certain nombre de sujets qui sera un peu plus étendu que la loi El Khomri. On a encore beaucoup d'interrogations sur le... Oui, parce que comme c'était, vous nous demandiez aussi si ça avait été une bonne chose cette concertation organisée par Madame Pénicaud. Heureusement qu'on a eu la concertation parce que c'était une loi qui était, c'était un projet de campagne qui était vraiment très idéologique au départ, au point même qu'on voulait que pousser tellement des accords d'entreprise aux dépens des accords de branche. La concertation a permis notamment aux chefs d'entreprise de PME, aux artisans qui sont représentés par l'UDP de M. Griset ou par M. Asselin, de dire que si on faisait une réforme comme ça où tout était organisé autour de l'entreprise, les relations sociales, ça serait pas pour eux. Parce que pour eux, c'est trop compliqué de négocier.
Vous voulez dire que les petits chefs d'entreprise, eux, n'étaient pas d'accord avec ça?
Non, exactement. C'est ça qui était intéressant.
Ils ne voulaient pas de micro-négociations, ils préfèrent s'appuyer sur les négociations qui ont lieu au niveau des branches.
Ils préfèrent avoir un accord de branche et sur les sujets restants, discuter en
même
direct
si ça leur
avec
laisse
le
moins de marge de
exactement,
négociation.
Exactement, oui, et ça c'est une chose que la concertation a permis de faire émerger, ce qui est important puisque c'est 80% des entreprises françaises qui n'auraient pas été concernées sinon.
Olivier Auguste, ça grogne pas ou très peu, alors qu'on annonçait une semaine à haut risque pour le gouvernement avec les concertations. Pourquoi ça grogne pas?
Non, mais d'abord, cette semaine, elle a été ultra technique. D'abord, ce ne sont pas les politiques qui ont discuté. Ce sont d'un côté les techniciens des syndicats et du patronat. Elle n'était pas là, Muriel Pénicaud. C'est son directeur de cabinet qui menait les consultations. Et vraiment, ils sont entrés dans une lecture vraiment très juridique de chaque point. Donc, les têtes de chapitre, ils les connaissaient déjà.
Même Jean-Claude Mailly, par exemple, il n'y était pas. C'était une délégation de techniciens aussi.
Non, c'était vraiment ces techniciens, ces spécialistes, point par point. Donc, ils ont éclairci pas mal de choses, mais en réalité, sur les points qu'ils connaissaient déjà. Et il leur manque quelques-uns des points les plus sensibles. Donc, il est peut-être encore un petit peu tôt pour dire si ça va bien se passer ou pas. Je peux vous citer peut-être deux points importants sur lesquels ils n'ont pas eu de réponse ni côté syndical, ni côté patronal ces jours-ci, qui concernent les moyens dont vont disposer les syndicats dans les entreprises. Puisque l'une des philosophies de cette loi, c'est de dire on fait moins de grandes négociations au niveau national et on confie plutôt les décisions à des négociations entre le chef d'entreprise et ses salariés, pour que ça soit plus proche du terrain. Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, les syndicats l'acceptent plus ou moins bien, mais ils disent, attendez,
ils ont peur
de quels moyens
de
je vais disposer dans les entreprises. L'un des volets de cette loi, il dit, on va fusionner toutes les instances qui existent, le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel, voilà. On va mettre tout ça ensemble pour faire une seule instance. Imaginez une grande entreprise où ces instances-là représentaient jusqu'ici, mettons, 30 délégués. La question, c'est, à la fin, quand on a une seule grande instance, est-ce que elle compte toujours 30 délégués, auquel cas le patron dit « Attendez, j'ai gagné quoi dans l'histoire ? Où est la simplification ?» Ou est-ce qu'elle comptera 10 délégués ? Et là, les syndicats disent « Mais attendez, on s'est fait raboter les deux tiers de nos moyens au passage, on n'est pas content du tout. »
Pourquoi ça leur fait moins de moyens ?
À chaque
délégué, ils ont des moyens ?
À chaque instance, il y a des délégués, il y a des nombres d'heures.
Vous voulez dire que ça leur fait moins de moyens ? Ça fait moins d'argent ?
Moins de personnes qui peuvent se consacrer à ça, moins de temps.
D'accord.
Puisque à chaque fonction correspond du temps de délégation. On appelle ça de la délégation syndicale, c'est un petit peu technique, mais c'est du temps qu'ils peuvent consacrer à leur tâche syndicale et non pas à leur tâche de salarié.
Romain Dessalles, merci de nous avoir très bien expliqué cet enjeu.
J'en ai d'autres, si vous voulez.
Oui, on va voir ça après. Romain Dessalles.
Non, mais sur l'espèce d'atonie syndicale, en dehors du fait qu'effectivement, sans doute, cette semaine, c'était des conversations techniques, il y a quand même une dynamique complètement différente de celle qu'on a vue avec la loi El Khomri.
Il y a un an, oui. C'est quoi la dynamique différente ?
Il y a une dynamique différente, c'est que la loi El Khomri, c'est une loi qui est votée par une majorité à bout de souffle, un président à bout de souffle, un gouvernement lui-même à bout de souffle, et en plus, non seulement ça, mais c'est une loi qui est à contrario, à rebours complet de la plateforme sur laquelle s'est fait élire cette même majorité et ce même président. Donc, on a un énorme problème de faiblesse à tous les étages. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. C'est une loi, c'est une des lois sur lesquelles Macron a été le plus clair, même s'il y a effectivement eu des arbitrages.
Donc, il a annoncé la couleur.
Il a même annoncé la méthode.
Mais est-ce que les syndicats sont vraiment sensibles à cette question de légitimité de
l'on l'a annoncé avant ou pas avant?
Il y a un mot sacré chez Force Ouvrière, c'est la République.
Et c'est le rapport de force.
On peut pas, 3 mois après une élection sur laquelle effectivement ces sujets ont été mis sur la table, contester le programme de celui qui vient d'être élu.
Nous allons poursuivre ce débat sur la loi travail qui semble pour l'instant passer plutôt correctement auprès des syndicats. Nous allons décortiquer ensemble les enjeux des prochains jours dans quelques instants. Il est 20h40, toute l'info, Emmanuel Langlois.
Et ce coup de tonnerre à la brigade des stupes, l'ex-patron de la lutte anti-drogue mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, François Thierry, soupçonné d'avoir favorisé l'entrée en France de 7 tonnes de cannabis saisies en 2015 pour rendre service à l'un de ses informateurs, lui-même trafiquant de drogue. Les créations d'entreprises, elles ont accéléré au mois de juillet, progressant de 4,9% après une hausse de 3% en juin, d'après l'INSEE. Une demande de libération de Lou Bureau, rejetée par le juge qui l'avait mise en examen. Le journaliste français détenu en Turquie depuis fin juillet pour terrorisme. Son comité de soutien en appel à Emmanuel Macron. Et puis du football, et Saint-Etienne en déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour la 4e journée de Ligue 1. Premier test important pour le PSG de Neymar. Match à partir de 20h45 au Parc des Princes, en direct sur France Info. Du foot encore avec un tirage au sort plutôt corsé pour les 3 clubs français engagés en Europa League. Lyon sera opposé notamment à Everton et à l'Atalanta Bergame, Marseille à Salzbourg et Nice à la Lazio Rome.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés sur France Info tous les soirs jusqu'à 21h. Romain Dessalles pour Time to Sign Off, qui est une newsletter. Laurence Desquet pour Marianne. Olivier Auguste pour L'Opinion et Virginie Lepetit pour Courrier International. Ça devait être une semaine de tous les dangers pour le ministère du Travail et pour le gouvernement avec les ordonnances sur le travail. Mais finalement, pour l'instant, c'est une semaine calme qui se termine. Virginie Lepetit, vous voulez rebondir sur cette notion de légitimité que soulignait Romain Dessalles à l'instant, sur le fait que, contrairement à la loi El Khomri, il y a un an, là, vous vous êtes d'accord avec ce point-là, c'est que le Macron, lui, il a un boulevard devant lui.
Ah non, il ne sait pas qu'il a un boulevard devant lui.
Un boulevard de légitimité, je veux dire.
En tout cas, oui. C'est-à-dire que dans toute phase de négociation, il y a aussi les émotions entrent en jeu. Et quand vous avez le sentiment d'avoir été trahi et que vous arrivez à la table des négociations avec, avec ce sentiment-là, ça va très mal se passer. Alors là, ce n'est pas forcément que ça va bien se passer, mais en tout cas...
Mais il n'y a pas un peu ce risque-là ? Parce que finalement, ils arrivent dans ces concertations, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ils arrivent dans ces concertations. Depuis une semaine, on leur lit quelques extraits, ils n'ont pas le droit d'avoir le papier entre les mains, ils n'ont pas le droit de prendre de photos. Ils repartent avec aucun document et on ne leur dit pas tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière d'avoir ce sentiment de trahison ?
Ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas une vision globale du projet. Ça, c'est sûr et certain. Après, si sur chaque point, ils parviennent à avancer malgré tout, on peut te faire tenir un petit peu comme ça les négociations sans que ça, les esprits s'échauffent.
Moi, je suis étonné que ça tienne aussi longtemps, pour être sincère.
Mais comme on disait, en ce moment, c'est technique aussi.
Parce que ça fait des semaines,
ce sont des points techniques qui sont
négociés.
Qu'on tourne
un peu en rond, finalement.
Là, on n'est pas sur les aspects plus idéologiques, en fait, ou plus fondamentaux, ou plus structurants. Et après, il y a une deuxième phase. C'est là, ce sont les syndicats qui négocient. Les syndicats font un travail de fond, ils font un énorme travail, mais est-ce que derrière, la majorité des Français et des votants vont accepter ce qui résultera de ces négociations ? Ça, c'est autre chose, c'est une deuxième phase, et là, ça peut peut-être être un peu plus violent.
Olivier Auguste ?
Deux choses. D'abord, on parle de ce qui a changé dans la méthode et dans la légitimité côté gouvernement. Oubliez non plus qu'en face, il y a eu des changements côté syndicaux, que notamment la CFDT est devenue premier syndicat dans le privé, et la CFDT qui a doublé la CGT, elle est plus depuis des années sur la lutte des classes. Ils sont un peu sur un autre mode de réflexion.
Donc le rapport de force n'est pas le même non plus en face,
En
c'est
tout
ça
cas, ils se battent pas forcément sur les mêmes points et ils ne dépendent pas forcément des...
Mais est-ce que les interlocuteurs sont les mêmes que pour la loi travail ?
Les interlocuteurs sont largement les mêmes.
Les négociateurs, ce sont les mêmes.
Mais vous aviez raison, quand on leur parle poliment, ça compte aussi. Il n'y a pas que le fond du texte. Et quand on leur montre des marques d'attention, ça change un climat.
Laurence Desquet ?
Oui, il va quand même falloir attendre un certain nombre d'arbitrages pour voir comment ils vont se positionner. Vous évoquiez la CFDT qui a progressé aux élections. La CFDT n'est pas preneuse d'une négociation autorisée avec les salariés dans des entreprises jusqu'à 100 représentants ou accompagnement syndical dans des entreprises jusqu'à 300 salariés, comme il en était question au mois de juillet. Il semblerait qu'on soit revenu à un seuil peut-être de 50, ce qui va peut-être expliquer ça. Mais ça, c'est un des objectifs principaux des chefs d'entreprise, là, d'obtenir cette liberté-là. Donc, c'est ça qui va faire qui va positionner les uns et les autres. Il y aura d'autres choses aussi, les indemnités, si on fait un barème effectif des dommages et intérêts versus par les prud'hommes.
On en a parlé cette semaine des indemnités
à quel niveau il est, qu'on accorde en échange comme augmentation des indemnités de licenciement.
On vient typiquement d'évoquer effectivement un des points sur lesquels ni les syndicats ni le patronat n'ont encore la réponse, ils n'ont pas eu cette semaine, et qui est dans les deux cas un point très important pour eux, c'est-à-dire que est-ce que dans les petites entreprises, le chef d'entreprise pourra signer un accord avec un représentant du personnel sans qu'il soit syndiqué, ou alors est-ce qu'il devra obligatoirement passer par un syndicaliste. Ça, c'est une ligne rouge pour les syndicats. Les syndicats disent, il n'est pas question qu'on puisse me contourner et signer des accords sans moi. Et pour le patronat, le patronat dit, il n'est pas question qu'on m'impose de force des syndicats dans mon entreprise. Donc ça, c'est une ligne rouge sur laquelle on n'a pas la réponse. Ça peut être une des explications peut-être de la prudence des syndicats jusqu'ici, parce que c'est un sujet très important Pour les organisations syndicales, je suis pas sûr que ça soit un sujet sur lequel on mobilise beaucoup les salariés. Honnêtement, oui, ça leur parle oui. moins à eux
c'est
que
pas ça
de savoir
qui va descendre dans la rue,
le nombre maximum de CDD autorisés ou le montant des indemnités au prud'homme.
Sujet sur lequel on n'a pas encore de réponse d'ailleurs sur où se négocieront les CDD.
Est-ce que dans la méthode actuelle, on a parlé de la légitimité du gouvernement actuel, mais est-ce qu'il y a aussi une méthode différente? Une méthode qui s'inspire de ce qui peut se faire dans les entreprises, parce que rappelons que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était DRH. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'inspire de ce qu'on peut faire dans les entreprises, dans cette négociation, selon vous ?
Je ne sais pas si c'est une méthode venue du privé, mais le fait est qu'elle connaît la matière. Ce qui, je vais utiliser un gros euphémisme, n'a pas été le cas de tous ses prédécesseurs, notamment sous le quinquennat Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, je pourrais citer... Allez, au hasard, Brice Hortefeux ou François Rebsamen, je me fais un ami de chaque côté.
Voilà, c'est ça.
Mais voilà, au moins, ils parlent un langage commun.
Mais c'est pas forcément un gage de réussite de venir
non,
du terrain.
Non, mais ils savent de quoi ils parlent de tous les côtés de la table. Oui. Donc, ils sont pas forcément d'accord, mais personne ne reproche à l'autre de ne rien comprendre à ce qu'on est en train d'évoquer.
Romain Dessal?
Enfin, il y a sans doute ça, mais il y a aussi, enfin, on parle beaucoup de deal. Il y a des tractations derrière les rideaux. Il y a une décision extrêmement ferme de la part d'Emmanuel Macron. Et on dit que dans la balance, il dit, si ça se passe mal avec les syndicats, on pourrait élargir la loi de moralisation sur la vie publique à la vie syndicale, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Ce qui est considéré comme une ligne rouge absolue
par
les syndicats. Et on pourrait revenir sur la loi Rebsamen de 2014 qui donne des éléments de financement en plus aux centrales syndicales. Donc c'est un mix, hein. C'est sans doute une bonne pro et une bonne méthode, mais enfin il y a aussi un peu le bâton derrière.
Virginie Le Petit, donc vous êtes chef d'édition à Courrier International, vous scrutez tous les papiers du monde entier à Courrier International. Qu'est-ce qu'on dit à l'étranger de cette loi travail ? Est-ce qu'on la voit comme quelque chose de vraiment novateur pour la France ou pas ?
Alors, ça dépend évidemment de la tendance des journaux. Les Britanniques, qui sont quand même des observateurs très réguliers de notre vie politique, et notamment le Times et le Telegraph, qui sont des journaux conservateurs, estiment que ces réformes sont plus que jamais nécessaires, qu'il faut absolument qu'Emmanuel Macron les mène. Et notamment le Times lui l'invite à beaucoup de fermeté quand les travailleurs descendront dans la rue, pas si, hein, mais quand ils descendront dans la rue.
Pour eux, c'est sûr.
Au mois de septembre. Et en prenant exemple sur Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui eux aussi ont eu à affronter des réformes qui étaient très mal engagées avec une forte opposition dans la rue. Et regardez comme ils ont fait, ils ont été très fermes et cela a réussi à l'économie de leur pays. Et c'est la chute d'un des papiers du Times. Donc voilà, on aimerait que pour la France, et non pas sur l'Europe ou le Brexit, hein, Emmanuel Macron soit plus ferme.
Soit la Margaret Thatcher française.
En tout cas, qu'il s'en inspire sur la fermeté.
Olivier Auguste,
je
pour conclure.
Un tout petit élément sur la façon dont ça se passe en ce moment. On a parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé de Muriel Pénicaud. Il y a autour d'eux, dans leur cabinet, à l'Élysée, à Matignon, au ministère du Travail, des gens qui sont d'abord des très bons spécialistes et ensuite qui se connaissent très bien. Mmh. Il y a un ancien numéro 2 du MEDEF. Il y a un ancien numéro 2 de Force Ouvrière au cabinet de Muriel Pénicaud. Il y a un ancien directeur de cabinet adjoint de Xavier Bertrand quand il était ministre du Travail, qui est un des meilleurs avocats en droit social. C'est des gens qui ont l'habitude de négocier ensemble depuis des années, qui se connaissent, qui savent qu'ils n'ont pas forcément les mêmes positions, mais qui ont confiance.
Un peu ce climat,
oui, parce qu'ils ont confiance les uns dans les autres et ils se disent, on sera peut-être pas d'accord, mais il me plantera pas un couteau dans le dos et on peut se dire les choses clairement. Ça compte beaucoup.
La suite des informés. Dans un instant, nous allons aller en Espagne. Virginie Le Petit, je compte sur vous pour nous éclairer, notamment avec cette question sur la gestion des attentats en Espagne. Est-ce que les indépendantistes ont vraiment joué le jeu de l'antiterroriste ? A tout de suite sur France Info. 20h50, toute l'info Emmanuel Langlois.
Le Texas aux abris avant le passage de l'ouragan Harvey menaçant les nombreuses raffineries de pétrole de la région, notamment l'État américain, demande que Donald Trump déclare un état de catastrophe naturelle. Les autorités exhortent les habitants à évacuer d'urgence la zone menacée. L'ouragan Harvey déclaré désormais en troisième catégorie sur cinq. Après le fipronil, des traces d'un deuxième insecticide interdit ont été retrouvées en France. Il s'agit de l'amitraze. D'après le ministère de l'Agriculture, il aurait été utilisé dans quelques élevages de poules pondeuses dans l'Hexagone. Ce sera cette année la plus petite récolte de vin en France depuis l'après-guerre, en baisse de 18% par rapport à l'an dernier. La faute au gel puis à la sécheresse qui se sont abattues successivement sur les vignobles. Faible récolte, mais un millésime d'excellence de qualité d'après les viticulteurs. Une nouvelle coulée de boue et de nouveaux dégâts dans le village suisse alpin de Bondo, près de l'Italie. Les chances de survie sont très faibles pour les 8 randonneurs disparus dans le glissement de terrain d'hier. Grande manifestation contre le terrorisme demain à Barcelone. 9 jours après les attentats sanglants de Catalogne, le chef du gouvernement Mariano Rajoy appelle tous les Espagnols à descendre dans la rue. Voilà qui en fait le joueur français le plus cher de l'histoire du foot, Ousmane Dembélé, transféré pour 5 ans au FC Barcelone. Il remplacera Neymar au Barça pour 105 millions d'euros. L'attaquant de 20 ans arrive du club allemand du Borussia Dortmund.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
La suite et la fin des informés avec Romain Dessalles pour la newsletter Time to Sign Off, Laurence Desquet pour Marianne, Olivier Auguste pour L'Opinion et Virginie Lepetit pour Courrier International. Je parle sous votre contrôle, Virginie, pour Courrier International, une semaine après les attentats en Catalogne. Il y a une question qui se pose, le drame aurait-il eu lieu avec une telle force sans les velléités indépendantistes de la Catalogne, qui a donc un statut un petit peu particulier en Espagne, région autonome. Un référendum pour ou contre l'indépendance est prévu dans presque un mois, début octobre. Et après les attentats de Barcelone et Cabris, plusieurs éléments ont laissé penser que la Catalogne avait peut-être voulu trop jouer la carte de l'indépendance, y compris dans l'antiterrorisme. Et ça commence avec l'explosion du repère des terroristes. C'est bien ça ?
C'est bien ça. Et puis surtout avec des informations fournies par les autorités belges à Mossos d'Esquadra, qui est la police catalane,
d'accord,
qui exerce son autorité sur la région Catalogne, et des informations concernant l'imam là, qui était dans la maison et qui n'aurait pas été échangé ensuite avec un niveau national, avec Madrid. Et voilà.
D'accord, donc la Catalogne aurait fait une sorte de rétention d'informations.
Voilà, c'est-à-dire que normalement, cette police catalane est censée s'occuper de tous les points qui concernent la région, mais dès que ça devient quelque chose de national ou de...
Oui. Voilà, elle doit en référer dans ces cas au ministère de l'Intérieur et autres.
Alors ça, ce sont les reproches qui sont faits côté madrilène. Après, il se trouve que cette police catalane, depuis le mois de juin et bien avant, réclame l'accès aux données Europol, auxquelles elle n'a pas accès puisqu'elle n'est pas une police d'État.
Donc elle veut se comporter comme une police d'État.
Donc c'est une, en fait, cette espèce de polémique, c'est quelque chose qui depuis les attentats a repris du poil de la bête, mais c'est quelque chose qui est un peu prégnant depuis un certain temps, et il y a quand même, à mon avis, une instrumentalisation
de part et d'autre
dans l'optique du référendum. On est à 5 semaines du référendum. Tout ça va être utilisé.
On a aussi dit que la mairie avait refusé de sécuriser les Ramblas, comme le demandait le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, au micro de Benjamin Elie pour France Info, la maire a démenti.
Ce qui a existé, c'est une directive du ministère de l'Intérieur qui a été publiée pendant les fêtes de Noël, après le terrible attentat qu'il y a eu à Berlin sur un marché de Noël. Cette directive a été adressée à toutes les mairies pour prendre des mesures pendant les fêtes de Noël, et elle prévoyait l'installation d'obstacles physiques. À Barcelone, cela a été appliqué pendant les fêtes de Noël, mais jamais personne ne nous a demandé ou nous a conseillé d'installer des barrières sur les Ramblas.
Romain Dessalles, il y a une instrumentalisation des indépendantistes et des anti-indépendantistes.
Oui, il y a une instrumentalisation, et c'est pour ça qu'on est tous d'ailleurs extraordinairement prudents sur ce truc, parce que le dernier des trucs qu'on veut faire, c'est rentrer dans cette instrumentalisation, quel que soit le côté qu'on choisit. Il y a quand même des éléments troublants qui sont portés à la connaissance du public sur les Catalans. Les Catalans sont effectivement tous totalement tendus sur cet objectif du référendum, et le patron de la région de Catalogne a viré l'année dernière et en juillet, et le patron de la police Catalogne et ce qui lui sert de ministre de l'Intérieur pour la région. Tous les deux, parce qu'il ne les trouvait pas assez allants. Alors, le patron de la police, parce qu'il avait dit qu'il y avait des barrières constitutionnelles au fait qu'il puisse mener à bien la mission de police sur le référendum. Et son ministre de l'Intérieur, en quelque sorte, parce qu'il n'était pas assez allant sur cette histoire. Donc, il s'est quand même privé de deux ressources techniques fondamentales.
Laurence Zecquet.
Oui, enfin, j'aimerais bien ajouter que les Mossos d'Esquadra, là, la police autonome catalane, ils ont témoigné quand même de beaucoup de courage et de professionnalisme le 17 août.
Eux, c'est ce qu'ils disent. Eux, ils disent, regardez, on a géré extrêmement bien la crise, ça veut dire qu'on est capable d'être indépendant. C'est un argument pour eux aussi.
Oui, c'est sûr, mais bon, ils ont quand même évité un bilan plus terrible. Ce qui est totalement effrayant,
comment ils ont évité un bilan plus terrible ?
Ce qui est totalement effrayant, c'est le fait que...
Attendez, je vous interromps, vous ne pensez pas qu'ils auraient pu éviter un bilan comme celui-là si, au moment où la planque des terroristes a explosé, ils s'étaient rendus compte que c'était non pas un laboratoire d'amphétamine, mais un laboratoire pour faire des bombes ?
Oui, si, sans doute. Mais alors moi, je dois vous dire que je suis pas spécialiste et donc on m'a dit, d'autres informateurs m'avaient dit que c'était aussi peut-être les services secrets espagnols qui n'avaient peut-être pas été plus performants. Mmh. Enfin, je voudrais pas me positionner là-dessus. Mmh. Je juste qu'ils ont été courageux. Ce qui est totalement effrayant, c'est l'ampleur des attentats qui étaient projetés, qui montrent bien que Daesh est pas dans l'amateurisme. Là, on était sur des attentats beaucoup plus sanglants.
Olivier Auguste.
Oui, non, j'ai pas les éléments non plus pour juger ce qu'ils ont pu laisser passer ou pas, la police, les Mossos d'Esquadra. Simplement, évidemment, le contexte politique est particulièrement tendu en ce moment en Catalogne, puisqu'on approche un référendum d'indépendance, peut-être. Mais je voudrais quand même dire que ces polémiques et peut-être ces instrumentalisations, c'est quand même pas une spécificité 100% espagnole ou catalane. Souvenez-vous, après les terribles attentats de Nice, des polémiques qu'il y avait eu entre notamment Christian Estrosi et sa police municipale et d'autre part la police nationale avec là aussi sans doute des enjeux de pouvoir, des enjeux de positionnement politique, Christian Estrosi à droite versus un gouvernement de gauche, donc on n'est pas sur un phénomène spécifiquement catalan ou espagnol là-dessus.
Oui, Romain Desalles pour conclure.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la logique du truc, et d'ailleurs c'est un des éléments sur lesquels Emmanuel Macron dit que c'est une responsabilité européenne, la logique du truc, c'est que ces phénomènes terroristes sont des phénomènes qui sont d'abord de plus en plus professionnels, de plus en plus difficiles à arrêter et à détecter, et que la logique est européenne. On voit bien le parcours des terroristes.
La logique, elle est même pas au niveau de la Catalogne. Donc elle est pas au niveau de l'Espagne, elle est au niveau de
l'Europe. Services plutôt qu'à la fragmentation des services.
Merci à tous les quatre d'être venus dans les informés de France Info. Romain Desalles, Laurence Desquet, la une de Marianne de tête là. Non, je vous prends de court là. Hein. La une de Courrier International, Virginie Lepetit.
C'est sur l'État, les moyens de nous défendre. Est-ce qu'on a encore les moyens d'être défendus ? C'était l'armée, la police.
Et Courrier International ?
Sur Donald Trump, qui a choisi son clan, les suprématistes blancs.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci également à Marianne Joly et Laure Hinsbeckler qui ont préparé cette émission des Informés tout l'été. Lundi, pour les Informés, vous retrouverez Jean-Mathieu Pernin. Je vous souhaite une très belle rentrée. Dans un instant, la météo et les infos.